culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour chère auditrice, cher auditeur, c'est le cœur en joie que je t'accueille aujourd'hui pour un nouveau culte espoir. Une heure partagée avec des chroniqueuses, des chroniqueurs, mais aussi un invité pour t'apporter de l'espoir dans ton quotidien. On s'efforce de te partager des éclairages bibliques, des pistes pour concrètement activer dans ton quotidien la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio nos deux chroniqueurs du jour, Marilyn, Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, oui. En forme.
Bon, en forme, super, c'est ce qu'il faut. Nous accueillons aussi notre invité du jour, Andrei Ostrovski. Bonjour à toi.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là.
Merci. Écoute, je ne te connais pas beaucoup, j'aimerais bien que tu puisses te présenter pour nos auditeurs aussi.
Avec plaisir, comme vous s'était déjà dit, je m'appelle Andrei Ostrovski. Et en fait, je suis d'origine biélorusse. Il y a quelques années que j'habite ici en Suisse. Donc, je pense que vous percevez, vous verrez mon accent. Peut-être quelques erreurs. Mais malgré ça, je suis très content d'être là avec vous. C'est un plaisir de vous connaître et aussi de partager avec vous et avec les auditeurs.
Merci beaucoup. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, André?
Bon, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une histoire qui se trouve dans le 1 Samuel chapitre 7. Et on va parler de nos ennemis.
Sacré sujet. Je pense qu'on a tous été face dans notre quotidien à des ennemis, hein, quels qu'ils soient. Ça vous parle?
Oui.
Oui, aussi. Hein. Alors merci, on se réjouit de ce temps de partage biblique que tu vas nous apporter dans quelques instants. Je vais tout de suite laisser la parole à Marilyn pour la première chronique de notre culte espoir, Dieu dans ma semaine.
Alors voilà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de demander à Dieu un texte qui puisse vous encourager, vous guider dans une situation précise ou une période de votre vie. Et en parcourant le texte qui nous servira de réflexion, eh bien en fait ça m'a fait penser à une période il n'y a pas très longtemps où ce passage m'a fortement impactée. J'ai traversé une période d'un peu, on va dire, de turbulence, de combat, et lors d'un moment avec Dieu, j'ai été touchée par ce passage où le peuple revient vers Dieu, en même temps il est attaqué, il a peur, et où Samuel le rassure. Dieu donne la victoire, bon, je raconte un peu vite fait. Hein. Et Samuel dit « Jusqu'ici, l'Éternel vous a secouru. » Et en lisant ça dans la période que j'étais, je me suis dit « Waouh !» Ben, j'étais reboostée à bloc, quoi. Et je me suis dit « Je me retrouve dans ce schéma de consécration, la situation qui me fait peur. » Alors, j'ai gardé en tête cette petite phrase « Jusqu'ici, l'Éternel vous a secouru. » Alors, cette fois, ça va aller. Et c'est vrai que j'ai cru que les situations qui m'étaient difficiles à gérer allaient enfin trouver résolution. Et pourtant, quand je regarde avec le recul, ce que j'attendais comme résolution n'est pas arrivé comme je pensais. Du coup, même en préparant ce culte, j'ai dit « Mais à ce moment-là, j'avais une conviction. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ?» Et tout de suite après, j'ai eu cette phrase qui est revenue « Jusqu'ici, il vous a secouru. » Et ça m'a rappelé, ben, malgré tout ce qui s'est passé, que j'ai été peut-être moi, parce que par rapport à mes attentes, j'ai été un peu déstabilisée. Ben, en fait, je peux clairement me rappeler quand est-ce que Dieu, tous ces moments où Dieu est venu me rejoindre dans ce que je vivais, par des chants, par des versets, par du soutien, par des choses. Et j'ai bien vu le secours de Dieu tout au long de ce trajet. Et je réalise que j'ai souvent, sans m'en rendre compte, des attentes assez précises sur le résultat et sur la façon dont la victoire doit se présenter et sur la façon dont Dieu devrait répondre à mes prières ou dans mes situations. Et même une prédication dernièrement m'a interpellée. À quoi ça sert de prier? Ben aussi pour pas se décourager quand ces situations décevantes peuvent se présenter parce qu'on continue à prier et on continue à parler à Dieu de ces situations. Et puis, le regard de Dieu peut nous encourager, nous rejoindre. Alors, en tout cas, moi, je sais pas, mais quand je prépare ces cultes, souvent, Dieu profite pour faire un petit lifting. Et puis, bah voilà, ça a fait pareil. Et en partageant cette semaine avec une amie, eh bien, j'ai aussi réalisé que ces situations où on est un peu déçu, des fois, ça laisse une petite trace dans notre cœur. Et Dieu a besoin de... Enfin, en tout cas, c'était une occasion dans laquelle Dieu m'a permis de me dire, dans cet endroit où tu as été déçu, n'oublie pas de faire revivre la vie, que Dieu puisse revenir remettre la confiance là où c'était un peu difficile. Alors voilà, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. J'arrête de me plaindre et je le remercie pour tout ce que j'ai pu voir de lui, découvrir de lui, apprendre à travers cette situation. Je sais que lui, il sait où je vais, il sait où je suis et qu'il n'est pas dépassé.
Aujourd'hui, dans la promesse du jour, j'aimerais vous apporter les enseignements que Dieu nous donne de comment nous devons agir lorsque le sujet est ennemi. Il est très clair. Donc, cette promesse se trouve dans le livre de Romains 12, versets 18 et 21. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Très chers amis, ne vous vengez pas de vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, là c'est difficile, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comment tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre le mal par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Dieu nous enlève ce poids énorme dans les épaules, dans ses enseignements, car il nous promet que c'est à lui d'agir envers nos ennemis et pas à nous. Nous pouvons être en paix. Il nous demande seulement d'aider notre prochain, même si ce dernier est notre ennemi.
Aïe, 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 merci Stéphane pour cette piqûre de rappel par rapport à nos ennemis. C'est pas si facile d'être en paix avec tous et d'avoir cette attitude-là positive, en tout cas de faire le bien quand envers nous, c'est pas toujours si simple en tout cas. Quel défi, merci. Je me retourne vers Marilyn. Alors, tu as certainement prévu un temps de louange en musique sur notre thématique du jour.
Ben oui, c'était un petit peu dans ce thème. Eh bien, je voudrais commencer par un chant qui va nous inviter à nous positionner parce que avant d'être face à nos ennemis, en tant que chrétien, on a envie d'être positionné devant Dieu et pas positionné face à un juge, mais parce que l'autorité de Dieu dans notre vie est plus grande que l'autorité que pourraient revendiquer nos ennemis sur nous, sur nos vies. Il domine les nations, il est plus grand que les plus grands. Et alors c'est avec ce chant, ô Dieu, tu es grand, à travers ce chant qu'on puisse rappeler combien notre Dieu, il est bien plus grand.
Ô Dieu, tu es grand, nous chantons ô Dieu. Tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Ô Dieu, tu es grand, ô Dieu, tu es grand, et nous chantons, ô Dieu, tu es grand.
Terra sa grandeur. Le nom de Jésus est le nom le plus haut.
Bon Seigneur, et prompt à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Au jour de ma détresse, c'est vers toi que je crie, car tu me répondras. Parmi les dieux, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Aucun ne pourrait accomplir des œuvres semblables aux tiennes. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suive, et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur tel qu'il te craigne sans partage. C'est la prière que je vous propose avec ce chanson de moi. Amen. Bien souvent, on voit que les combats, selon Dieu, ne sont pas faits selon la même stratégie que nous. Et ces solutions défient souvent les stratégies normales de guerre. Alors, le prochain chant nous rappelle que, ben oui, se battre avec Dieu, c'est se battre autrement, ni par force, ni par puissance.
La flamme, tu ravives nos âmes, Seigneur. Le feu de ton amour consume chaque jour nos cœurs. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton ta présence,
tu libères ta présence,
bouleverse notre existence, Seigneur. Tu souffles sur nos vies,
tu souffles sur nos vies,
un vent qui fortifie, nos cœurs. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Abba, Père, nos cœurs sont
témoignage d'aujourd'hui vient du pasteur Mark Finlay, qui a rencontré Adèle Selfou du Rwanda. Vous savez qu'entre avril et juin 1994, on estime que 800 000 Rwandais ont été tués. Adèle Selfou était épouse du pasteur adventiste du septième jour. Un jour, la congrégation a entendu à la radio l'ordre de couper les grands arbres et a immédiatement compris que la milice Hutu s'était mobilisés et arrivaient dans leur village. Toute la congrégation d'environ 60 personnes s'est réfugiée dans le bâtiment de l'église, où tous ont été tués, sauf 15 personnes ont réussi à s'échapper. Le pasteur Selfou et a également été tué et son épouse était à ses côtés et a été grièvement blessée et laissée pour morte. Les villageois l'ont découvert 3 jours plus tard, lorsqu'ils sont revenus au village. Une horreur imaginable. Adèle était longuement soignée et remise sur pied pendant 3 ans. Après sa guérison, elle a fait le choix de refuser que l'héritage de son mari soit déshonoré. Pour cela, elle a choisi d'aller vers les personnes qui ont tué son mari et qu'il faille leur ôter la vie. À la suite du génocide, le nouveau gouvernement a construit nombreuses prisons dans tous les pays pour interner les personnes rendues coupables. Il n'y avait qu'une prison près du village d'Adèle. Et c'est là qu'elle a choisi de se rendre pour donner des études bibliques aux détenus. Peu de temps après, un jeune homme s'est approché d'elle et en tombant à ses pieds, l'a supplié de le pardonner. Des frissons lui parcourent les chenilles. C'est la même personne qui a tué son mari, il l'a laissé pour morte. Adèle n'a pas hésité à honorer sa demande de pardon. Voici ses propres mots.
Pasteur Marc, un jour, un jeune homme nommé Louis est tombé à mes pieds. Il pleurait et embrassait mes pieds. Et quand j'ai regardé son visage, j'ai vu qu'il était le jeune homme qui s'était précipité avec la machette et avait tué mon mari. C'était le jeune homme qui m'avait fait cette cicatrice sur la tête. Il a levé les yeux vers moi et m'a dit
« Adèle, veux-tu me pardonner ?»
Alors je l'ai tiré vers le haut, je l'ai embrassé et je lui ai dit « Au nom de Jésus, je te pardonne. »
Et elle a poursuivi.
« Pasteur Marc, mon cœur s'emballait, je savais que le Christ m'avait pardonné et que je pouvais pardonner à ce meurtrier. J'ai commencé à étudier la Bible avec des prisonniers et Louis est venu à mes études bibliques. Il a pris la décision de suivre Jésus et de se faire baptiser. »
Mais il a dit
« Avant d'être baptisé, je veux me présenter publiquement devant la prison et te demander pardon. »
Le jour de son baptême, il s'est tenu aux côtés d'Adèle et a dit
« Adèle, j'ai brutalement assassiné ton mari. J'ai mis une cicatrice de machette sur ta tête. Me pardonneras-tu ?»
Et elle a répondu
« Avant ses prisonniers et avant que tu ne sois baptisé, je lui avais pardonné. Mon fils a très mal supporté la mort de son père. » Et Louis lui a dit
« Je veux parler à votre fils. »
Et mon fils est allé dans la cellule. Et Louis lui a dit
« Je veux que tu me pardonnes. »
Et Louis est devenu un prisonnier modèle.
Adèle a continué à s'occuper de ce jeune homme. Devenu le prisonnier modèle, il est amnistié pour de bonne conduite. Mais l'amnistie a porté un problème d'un autre genre. Le jeune homme était orphelin et ayant perdu toute sa famille pendant le génocide. Ayant nulle part à aller, qu'est-ce qu'Adèle a fait? Adèle a passé vraiment la vitesse supérieure et a adopté Louis comme son propre fils. Et après avoir rencontré cette histoire de pasteur Finlay, elle lui propose de lui présenter son fils, Louis. Le pasteur Finlay a admis qu'il était inquiet. Au début, ne sachant pas quoi faire, s'attendre. Lors de la présentation, il n'a pas pu discerner le meurtrier. Devant lui se tenait un jeune homme au caractère admirable, un pécheur pardonné. Elle avait tous les droits d'haïr cet homme. Elle avait tous les droits de vraiment essayer de se venger. Vraiment, c'était son ennemi. Mais elle a fait différemment.
Ouais. Elle a choisi de faire partie d'un camp, celui de l'armée de Dieu qui se bat autrement, selon les enseignements de Jésus, avec une puissance hors du commun pour des résultats remplis d'espoir et de vie.
Pour lui obéir, Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut. Et de
Nous entrons à présent dans le temps du partage biblique. Andrei, nous t'écoutons.
Merci beaucoup pour, encore une fois, pour cette opportunité. Chers amis, je voudrais partager avec vous un petit témoignage personnel. Parce que chaque fois que j'étais en train de lire dans la Bible l'histoire des ennemis, ça ne parlait pas à moi. Quand on lit, par exemple, au psaume, quand David il dit qu'il faut qu'il attend la vengeance du Seigneur, qu'il faut battre les ennemis, tout ça. Ok, voilà, je les ai, je dis, c'était une belle expérience pour David, voilà, dans son époque, il a eu de vrais ennemis, donc à qui il a dû battre, donc voilà, pour son époque, c'était bien. Mais ça ne parlait pas trop à moi, en fait. Et j'étais un jeune étudiant à l'université, et je n'ai pas eu beaucoup d'ennemis. Il y avait des gens qui me traitaient pas bien, ou comment j'attendais, tout ça. Et voilà, quand j'ai lu qu'il faut donner la vengeance au Seigneur, je me disais, ok, donc ça va, Seigneur, c'est pas à moi de se venger. Mon attitude va être, c'est de traiter bien ces gens, d'aimer ces gens, de toujours être avec eux. Donc en fait, l'histoire des ennemis externes de moi, c'était quelque chose que je comprenais. J'ai peut-être eu quelques gens qui me gênaient, mais ce n'était pas en fait trop de messages pour moi dans l'époque et tout ça. Mais j'ai rencontré pas mal de gens à qui c'est vraiment a beaucoup parlé et qui a beaucoup aidé. Et c'était une fois que je me rappelle très bien ce jour-là. Dans cette époque, moi, j'étais au Kyrgyzstan. C'est un pays en Asie centrale, donc j'étais un jour en train d'étudier la Bible. Et je me tombe sur ce chapitre. Que le 1 Samuel chapitre 7. Et j'étais en train de lire ce chapitre. Ça pas beaucoup parlé à moi aussi. Mais après, quand j'étais en train d'arriver au final de cette histoire, j'ai vu vraiment la transcendance de cette histoire pour moi. J'ai vu que vraiment c'est une histoire qui a passé dans le passé, le déroulement de cette histoire. Mais j'ai vraiment ressenti que Dieu est en train de parler à moi. Et je voudrais partager avec vous comment c'était. C'était vraiment quelque chose, une expérience très forte pour moi. Parce que dans cette histoire, on rencontre un prophète. C'est un prophète qui s'appelle Samuel. Et Samuel était en train de servir aux personnes de l'époque. Il était le juge, il était le prophète, il était le sacerdote de l'époque. Il était vraiment quelqu'un très, très important, très apprécié. Il était vraiment un serviteur exemplaire. Et on voit comme le résultat de son ministère pendant 20 ans, on voit que dans la société où il était en train de servir, il a un réveil spirituel. Mais vraiment un réveil spirituel. Et on lit ici que dans le verset 2, que les Israélites désirent se rapprocher du Seigneur. Donc, comme le résultat de son ministère, il a tout le monde. Dans les autres versions, il dit qu'il pleurait, il voulait vraiment avec tout son cœur de se rapprocher le Seigneur. Et alors Samuel il dit, ok, si vous voulez rapprocher du Seigneur, il faut faire deux choses. Il faut revenir au Seigneur, vers le Seigneur avec tout son cœur. Et il faut arrêter d'adorer des autres dieux. Voilà, il a eu ces deux conditions, on dira comme ça, deux appels au peuple. Et comme le résultat de ça, le Seigneur il dit, donc je vais vous libérer de vos ennemis. Et les ennemis les plus importants dans l'époque, c'était les Philistins, on dit comme
Philistins,
ça.
Philistins, ouais.
Donc, ils voulaient se rapprocher au Seigneur. Le Seigneur, il a dit, ok, Samuel, il dit, ok, c'est super ce que vous voulez. Donc, effectivement, si vous voulez rapprocher au Seigneur, prenez la décision d'adorer que au Seigneur avec tout votre cœur. Il faut arrêter d'adorer des autres dieux. Et le Seigneur, il va vous libérer. Et après, on voit que les Philistins, en fait, ils ont fait exactement tout ça que Samuel et ils ont dit. Donc, ils ont arrêté d'adorer les autres dieux et ils ont dit dans son cœur, ok, on va adorer que le Seigneur. Donc, après, il devra venir la conséquence. Donc, c'était quelle la conséquence?
Être délivré.
Libération. Donc, il a dû avoir la libération. Mais si on continue de lire le texte, on voit ici que dans ce moment-là, les Philistins, ils se rendent compte que tous les Israélites, ils se trouvent dans un endroit spécifique. Les Philistins, ils disent, ok, super, donc ce qu'il faut faire maintenant, il faut y aller, les attaquer et détruire. Et ce n'était pas que les Philistins. Il dit dans le texte que c'était les princes Philistins avec ses armées. Donc, il a différentes sortes d'armées. Mais les princes, ils ont toujours l'armée élite, on pourrait dire comme ça. Donc, c'est l'armée élite des Philistins, ils vont là-bas. Donc, on se pose la question, mais Seigneur, mais tu as promis que si on fait ça, tu vas nous libérer. Mais en fait, quand on a fait tout ça, on voit que l'ennemi, dans sa pire représentation, il va nous attaquer. Et donc, c'est quoi qu'ils ont ressenti? Terrible peur. Ils ont vraiment peur. Et après, on voit qu'ils ont dit à Samuel, prie pour nous. Restez là, prie pour nous, fais des sacrifices et on ira là-bas pour leur faire face. Et quand ils ont allé là-bas, quand ils ont fait face, on voit que le Seigneur, il a fait trembler le ciel. Les Philistins, ils ont eu peur. Les Israélites, ils ont allé là-bas pour vaincre aux Philistins. En fait, c'était une belle victoire. Ils ont réussi de récupérer beaucoup de territoire. Pendant la vie de Samuel, ils n'ont jamais eu ce problème avec les Philistins, avec les ennemis. Donc, en fait, Dieu, il a réussi de faire ça. Et quand moi, j'étais en fait de lire ça, de réfléchir de cette histoire, j'ai vu cette bataille. La bataille en contre des ennemis. Dans ce moment-là, c'était un sentiment incroyable. C'était vraiment une révélation de Dieu quand Dieu me parlait. Ok, André, il a des ennemis externes. Mais dans ta vie, quelle bataille tu dois gagner aujourd'hui? C'est qui est ton pire ennemi dans ta vie aujourd'hui? Et je me suis dit, mais c'est moi. C'est moi-même. C'est mes vices. C'est mes priorités. C'est mes habitudes. C'est des choses sur lesquelles j'ai vraiment honte. Je ne veux pas avoir ça. Donc, en fait, tous les jours, j'étais en train de moi-même, avec mes forces, de lutter contre moi-même. En pensant qu'en fait, je n'ai pas de trop ennemis, et en fait, d'essayer de les gens qui me gênent traiter de la meilleure façon. Mais dans ce moment-là, je me suis dit, mais peut-être il y a de grandes batailles que Dieu doit gagner dans ma vie avec mon pire ennemi. C'est l'ennemi qui m'esclavise, on dit comme ça. Qui
me rend esclave, oui.
Qui me rend esclave, qui ne me donne pas l'opportunité d'être libre. Qui ne me permet pas d'adorer Dieu comme je voulais, d'être productif dans le service de Dieu comme je voulais. Comme les Israélites, ils étaient opprimés. Et moi, dans cette époque-là, je me sentais aussi opprimé. Et quand Dieu m'a parlé ça, je me suis dit, ok, quelle expérience. Maintenant, il faut que je revienne au début de cette histoire. Il faut que maintenant, je lis cette histoire encore une fois. Et je commence à lire cette histoire maintenant de mon perspective. Et l'histoire, elle a changé un petit peu pour moi quand j'étais en train de lire cette histoire. Donc, tout au début, je me rencontre un peuple d'Israël qui a eu ce désir d'être avec le Seigneur, de rapprocher avec le Seigneur. Et moi, je me suis dit, mais j'ai ce désir. Je vraiment voudrais aller avec Dieu. Je voudrais laisser tout ça qui m'opprime pour rendre au service du Seigneur. Mais chaque fois que j'essaie de faire ça, mon ennemi, dans sa pire représentation, vient contre moi. Et en fait, je vois que c'est pas qu'avec moi. En fait, c'est biblique ça, parce que quand l'ennemi, il voit à moi, quand moi, je me rencontre avec ce désir de me rendre au Seigneur, il prépare le pire, l'armée d'élite, pour aller de me battre. Et je me suis dit, ok, donc, je continue de lire cette histoire. Donc, moi, j'ai ce désir. Et à quoi Dieu m'invite? Donc, dans ce texte-là. Et la première chose que Dieu m'invite ici, c'est de revenir vers le Seigneur de tout votre cœur. Et ça veut dire quoi avec tout mon cœur? Ça veut dire quoi? C'est vraiment avec tout ce que je suis, de façon comment je suis. Et la deuxième chose, c'est d'arrêter d'adorer, comme dit ça, les Astartes, et des dieux étrangers. Mais moi, je me suis dit, mais j'adore pas les Astartes, j'adore pas les étrangers. Mais en fait, mais qu'est-ce que moi, j'étais en train d'adorer dans ce moment-là? Et je me suis dit qu'en fait, le Dieu, il n'est pas dans le premier endroit dans ma vie. Et peut-être il a des autres choses, des bonnes choses, peut-être pas des Astartes ou des autres dieux étrangers, mais il a des autres choses dans ma vie qui occupent l'endroit de Dieu. Donc, il faut vraiment mettre Dieu dans sa place, dans la première place, et de prendre la décision de servir à lui, et que à lui. Bon, et après, on voit toute cette histoire, quand ils ont pris cette décision, il a eu cette rencontre avec les Israélites. Mais il y a quelque chose que je voudrais aussi attirer notre attention, que c'était en fait les Israélites qui sont partis pour faire la bataille. Mais avant de partir à la bataille, ils ont fait quelque chose. Ils ont allé au Samuel et ils ont dit, Samuel, s'il te plaît, prie pour nous, intercède pour nous et fais les sacrifices pour nous. Et moi, je me suis dit, peut-être ça, c'est le... Il faut que je fasse comme ça. Peut-être que je ne connais pas quelqu'un qui s'appelle Samuel, mais je connais des autres amis qui connaissent Dieu. Peut-être que c'est mon pasteur, peut-être c'est mon père, peut-être c'est ma mère. Mais la bataille, il ne faut pas que j'en vais de l'autre. Il faut que je partage ça avec quelqu'un qui peut faire les prières pour moi, qui puisse faire cette intercession pour moi, qui puisse me soutenir dans tout ça. Et quand moi, je vais irai pour faire face, et quand il y a quelqu'un qui prie pour moi, qui me soutient, il y a une armée de Dieu qui vient pour me soutenir et pour vaincre cette bataille. Donc, je ne sais pas comment vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je sais pas ce que tu es en train de sentir dans ce moment-là. Et peut-être tu te rends compte dans une situation quand tu as un ennemi externe, quand tu as quelqu'un qui gêne ta vie, quand tu as quelqu'un à qui c'est difficile de pardonner. Donc il y a aussi ce principe qu'on voit ici, qu'il s'adopte aussi. Quand on a ce ressentiment, Dieu nous invite qu'on puisse partager ça aussi avec quelqu'un. Et comment est-ce qu'on prie à moi, prier avec mon ennemi, et aux autres aussi de prier pour mon ennemi, et d'y aller, de faire face à cet ennemi. Ou peut-être on vit un ennemi interne, donc Dieu, il nous invite de s'unir, de commencer à prier, et de faire face. C'est lui, et c'est qu'à force de lui qu'on pourra vaincre nos ennemis, externes et aussi les internes.
Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu au Culte Espoir. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Andrei Ostrovski. Il nous a apporté un thème défiant, comment vaincre nos ennemis. Alors je suis sûre que les chroniqueuses, les chroniqueurs du jour sont impatients de participer à cette chronique. Et toi, ça te parle. Qui se lance ?
Non, j'étais très marqué. Merci beaucoup Andrei pour ce partage. Et c'est bien que le texte, aussi au vu le texte, c'est que parfois quand on va vers les dieux, on pense, c'est bon, on est avec Dieu, et bon, on n'aura pas de problème, il y aura des ennemis, on ne va même pas les voir. Et ce n'est pas comme ça. Parfois, au contraire, c'est le moment où on s'approche plus de Dieu, et là, peut-être que les ennemis arrivent à ce moment-là. Et c'est ce moment-là qu'on doit faire confiance à Dieu, à ce moment-là qu'on voit, et avoir peur, c'est normal. Ce n'est pas avoir honte d'avoir peur. Mais on a peur. Mais il faut regarder où ? Vers le ciel, et lui, il va s'occuper.
C'est vrai que ça me parle beaucoup, ça. Hein. Ça m'est déjà arrivé, effectivement, quand je suis à la recherche de Dieu, de tout mon cœur, et j'ai le sentiment de que je vais recevoir la paix, que je vais recevoir sa présence. Et puis, effectivement, c'est d'un coup un défilé d'ennemis qui débarque dans ma vie avec des choses un peu internes qui rejaillissent comme ça. Et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ça fait un peu peur, quelque part. Et ce que j'aime beaucoup, c'est d'accepter de pas s'arrêter là, parce que j'aurais probablement envie de me dire ok, je sors de la présence de Dieu, c'est trop intense ce qui est en train de se réveiller à l'intérieur de moi, en termes d'addiction, en termes d'autres choses, c'est tellement fort que ok, je vais reculer parce que ça, je veux pas affronter tout ça, ça fait peur, c'est le danger quoi, et j'aimerais vraiment nous encourager à tenir là. Dans cette faille-là, c'est un petit moment un peu stressant, un peu difficile, mais Dieu nous attend et il est avec nous à ce moment-là. Il y a des batailles très sérieuses à ce moment-là qui doivent être gagnées. C'est vraiment un moment clé. Et c'est tellement dommage de renoncer à ce moment-là, de reculer. Je nous invite, même si c'est pas facile, et peut-être que là, la clé, c'est le soutien de la prière par des gens autour de nous, de pas hésiter dans ces moments un peu de cruciaux à parler à des amis en leur disant, écoutez, là, j'ai besoin de prière, sans forcément expliquer ce qui se passe, mais pour affronter vraiment ces Goliaths, ces géants, ces ennemis, parce qu'il y a une victoire juste derrière. Des fois, il suffit de peu de temps pour qu'elle ait lieu et qu'on soit enfin libéré et qu'on vive un temps de paix avec Dieu.
Oui, parfois on a cette mixture de sentiments. Et le sentiment le plus important, peut-être dans ce moment, c'est la peur des ennemis, mais aussi la peur d'être vulnérable au vu des autres personnes. Mais qu'est-ce que les autres ils vont dire? Qu'est-ce que les autres vont passer de moi si je partage quelque chose avec eux? Mais en fait, ce qu'on voit ici dans cette histoire, le secret de cette bataille-là, c'était justement l'intercession du Samuel, qu'il était là-bas en train de prier, en train de offrir les sacrifices pour le peuple. Et aussi, on voit, il y a une autre histoire dans la Bible très intéressante, qu'on le voit aussi dans l'Ancien Testament, ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël et Moïse. Enfin, le peuple d'Israël est en train de faire la lutte, et Moïse n'était pas avec eux, c'était le Josué, on dit comme ça, c'était le Josué qui était là-bas en train de louer. Et Moïse, il était dans la montagne, il est en train de regarder ce qui s'est passé là-bas, et quand Moïse, il levait ses mains,
Le
peuple d'Israël était en train de gagner. Et quand il baissait ses mains, le peuple d'Israël était en train de recoller. Donc peut-être, et surtout, il ne faut pas partager avec n'importe qui. Il ne faut pas partager avec tout le monde. Il ne faut pas sortir à l'église et dire, ok, tout le monde, regardez, maintenant je voudrais partager avec quelque chose, une bataille intime. C'est pas ça, mais chercher quelqu'un avec qui on a la confiance. Quelqu'un qui on sait qui m'aime, qui va me comprendre, qui va prier pour moi, qui va me soutenir dans les moments difficiles. Et si tu n'as pas cette personne-là, il faut commencer à prier à Dieu de montrer quelqu'un à qui je peux partager ça, qui peut-être pourra s'identifier, parce que s'il y a quelqu'un qui a la même bataille, peut-être il pourra donner un courage différent, il pourra m'encourager un peu plus.
Oui, en tout cas, c'est vraiment très, très intéressant. Et comme on pouvait partager, on voit nos ennemis, ben, c'est pas forcément... Enfin, des fois, je me retrouve en tout cas dans ce que tu dis, que les ennemis sont pas forcément à l'extérieur. Et nos pires ennemis ben, peuvent être nos schémas de pensée, des trucs, des cercles dans lesquels on retombe tout le temps. Et les victoires prennent du temps, mais peut-être que... Enfin, peut-être rapide, et peut-être que justement, ça fait partie d'une réflexion que j'avais suite à notre Dieu dans la semaine. Peut-être que pour avoir la vraie victoire, ben, ça prend un peu plus de temps pour aller vraiment au fond des combats qui sont à mener. Et ouais.
Et un point le plus que je trouve aussi très important, c'est le fait d'aller vers Dieu. Dieu est là, il ne fait qu'attendre qu'on aille. Donc parfois, peut-être on a honte d'aller vers Dieu, parce qu'on a... Voilà, on se sent pas bien, c'est pas ça, on s'est dit vaincu. Et Dieu dit, viens. Et ça que le peuple Israël a fait, on va vers toi, on va vers Dieu. Je vais, il faut faire la première étape. Première étape pour vaincre, il faut aller vers Dieu. C'est pas tout de suite qu'on va vaincre, peut-être ça va durer longtemps, une, deux semaines, un an, deux ans, tout dépend. Mais ce qui est important, c'est la fin. Et la fin, c'est la victoire avec Dieu. Et c'est avec Dieu Parfois c'est facile, parfois comme on a vu le témoignage, on peut perdre la famille. Mais avec Dieu, même qu'on aura des problèmes, on aura la paix. Et c'est ça qui est très intéressant. Ils ont pu vaincre le peuple Israël et aussi on peut vaincre aujourd'hui.
Amen.
Mm-hmm. Et ça vaut la peine. Et ça vaut la peine d'y aller, ça vaut la peine d'aller vers Dieu, ça vaut la peine de faire face à cet ennemi. Parce que moi quand j'imagine à ce jeune, à le peuple d'Israël, quand ils ont réussi de vaincre aux Philistins, j'imagine la paix, j'imagine la joie, j'imagine de la, cette liberté de vivre. Ils ont pu reprendre les forces. Et moi, j'ai besoin de ça. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous attendent aujourd'hui. Que nous aussi, on a besoin de nouvelles joies dans ma vie. On a besoin de ressentir cette liberté, de ressentir de nouveaux défis dans sa vie. Et la façon de le rencontrer, c'est de passer pour ce chemin. Peut-être que ce n'est pas facile, dans quelques époques, ça donne de peur, mais ça vaut la peine.
Amen. Merci beaucoup.
Donc, Dieu dans les arts aujourd'hui, je vous ai apporté deux zones. D'accord ? C'est une histoire qui était décrite dans un livre et ensuite était adaptée dans un film.
Super.
Le film s'appelle et le livre s'appelle I'm not ashamed. Donc, je n'ai pas honte. Et l'histoire, c'est d'une adolescence qui s'appelle Rachel Scott. Donc, une adolescence, vous savez, énormément de batailles, en interne, externe. Et elle vit depuis qu'elle est petite, elle a cette bataille-là. C'est-à-dire qu'elle est proche de Dieu, c'est une chrétienne. Mais en dehors, à l'école, on ne voit pas trop chrétienne. Elle va avec les amis, mais elle ne fait pas tout, mais elle va quand même. Donc c'était cette bataille-là, c'est vraiment cette bataille-là qu'elle a du mal. Et un jour, elle va vers le... Elle passe en vacances avec ses cousins, aussi vraiment chrétiens. Et là, elle se donne vraiment à Dieu. Donc tout va bien, elle commence à écrire dans son journal. Et vraiment, elle se met tout à fait pour « je veux être un disciple de Dieu, de Christ, et je veux parler à tout le monde ». Mais quand on revient à la réalité, à l'école, au lycée, tout change.
C'est plus difficile.
Elle a encore cette bataille. Elle va d'un côté, elle va de l'autre. Donc vraiment, elle a ses ennemis internes, externes. Vraiment, elle se bat. Et un jour, elle décide, vraiment, comme tu as dit, de faire le premier pas. Dire, je veux être vraiment le réveil spirituel. Elle a ce réveil spirituel-là, j'ai dit, je veux faire la différence. Elle va à l'école, au lycée, comment ça se passe. Les gens se parlent mal, ce genre. Pas mal d'activités. Elle dit, je veux montrer aux gens que je suis chrétien, je suis un disciple de Dieu. Et c'est là, elle va rester fidèle. Elle reste fidèle, elle montre l'exemple. Elle va montrer l'exemple de plusieurs façons, même quand il y a ses amis qui le trahissent, elle le pardonne. Donc c'est vraiment magnifique et tout ça, elle aide les autres à arriver à Dieu. Vraiment, en public, elle est fidèle. Mais il n'y a pas tout qui se passe après. Il y a quelque chose en plus qui se passe dans ce film, dans le livre. Et si je vous pose la question, est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé le 20 avril 1999 au lycée de Columbia dans le Colorado, aux États-Unis? Le mot Columbia, est-ce que ça rappelle quelque chose?
Non, mais les États-Unis, il y a eu peut-être une...
Voilà, c'était la fusillade, la première, la plus grande fusillade qu'il y a eu, en tuant 12 élèves, un professeur, et blessé 23 autres. Et malheureusement, Rachel fut la première victime. Mais elle fut tuée encore une raison plus, parce qu'elle était... chrétienne, elle a donné sa foi en Dieu. C'est exactement exprès. Et comment on peut trouver toute cette histoire-là? C'est parce qu'elle a écrit un journal de toutes ses pensées, tous ses conflits, tous ces défis qu'elle a pu réussir dans la vie. Et ses parents qu'on l'ont retrouvé dans ce journal-là, ils ont publié ce livre pour aussi montrer aux jeunes d'être eux-mêmes, d'être fidèles à Dieu, être authentiques et suivre le chemin de Dieu. Voici la bande-annonce du film, comme ça vous pouvez voir.
Nous sommes mardi 20 avril 1999 et nous jouissons d'une matinée de printemps claire et ensoleillée sur la banlieue de Denver.
C'est une blague, j'espère.
Allez, allez.
L'Amérique et le monde sont en deuil alors que la plus importante fusillade de l'histoire des États-Unis au sein d'une école a eu lieu aujourd'hui au lycée de Columbine.
J'ai toujours été attirée par les mains. Je pense que c'est parce qu'elles nous permettent de toucher les autres. J'ai une théorie selon laquelle une personne qui ferait tout pour faire preuve de compassion pourrait lancer une réaction en chaîne.
Don't touch me, I feel weary.
J'aspire à être lumière, mais il fait si sombre.
Ça roule, Bigle.
Je pensais que ce serait différent cette année. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour moi de marcher aux côtés de Dieu.
Il est là. Même si c'est difficile à comprendre, il a le contrôle.
Je vais faire bouger les choses dans ce monde. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je peux t'aider ? Je veux simplement vivre ma vie pour Jésus et permettre aux gens d'en profiter comme ils l'entendent.
C'est quoi ton problème ?
Tu te crois meilleur que nous ?
Comment tu peux croire à un mec dans le ciel que tu peux même pas voir ?
Parfois, il faut voir avec son cœur.
Tout ce que t'as dit en cours, c'était vraiment cool. Tu m'as inspiré.
Je veux juste un truc comme ce que t'as. La compassion est la plus grande force d'amour que les hommes ont à offrir. Salut, moi c'est Rachel. Demain n'est pas une promesse. T'es prêt ?
Ouais.
Il n'y a pas de réponse facile. Mais je crois que Dieu ne gâche jamais rien. Jésus a donné sa vie pour moi. Et je donnerai la mienne pour lui.
J'aimerais nous inviter à un temps de prière maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce partage biblique qui est rassurant. Oui, nous pouvons avoir des ennemis, mais tu es un Dieu qui est là, qui nous soutient, qui a déjà la réponse à ces épreuves et qui tient la victoire. Merci de nous avoir donné la prière, cet outil puissant de communication avec toi, ce temps où nous pouvons te confier nos défis, te demander ton avis, ton aide, ton soutien, ton secours. On te demande, Seigneur, de susciter maintenant des personnes qui pourraient autour de nous prier pour nous soutenir dans la prière quand ça devient difficile. Des personnes de confiance, Seigneur, pour réclamer avec nous ton secours dans les moments par lesquels nous passons. On veut te remercier, Seigneur, pour les victoires que tu nous donnes. Merci pour la victoire sur nos ennemis. Donne-nous encore le courage de tenir bon quand les ennemis semblent prendre trop de place dans notre vie. Rappelle-nous que tu es au-dessus de tout ça, plus fort que le plus grand de nos ennemis. Nous t'invitons, Seigneur, à continuer ton travail dans nos vies. Nous voulons nous tenir près de toi et nous rappeler que tu es celui qui sauve, qui délivre, qui libère, Seigneur. Merci pour tout ça dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Alors, nous voici arrivés à cette chronique Action, après ce beau partage et ces réflexions. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Je te propose de prendre un moment avec Dieu, suite à ce que tu as entendu, et probablement de prendre une Bible ou dans ton téléphone, de relire ce passage. C'est dans 1 Samuel, dans l'Ancien Testament, le livre du premier livre de Samuel, au chapitre 7. C'est le début du chapitre. Comme ça, tu peux relire cette histoire. Et bien, je te propose de prendre ces étapes, en fait. De prendre le temps de dire, ok, alors quels sont mes ennemis ? Est-ce que moi, face à moi, j'ai des ennemis internes, j'ai des ennemis externes ? Quels sont les types d'ennemis que j'ai en face ? Et puis, quelle est aussi ma position par rapport à Dieu ? En ce moment, on en est où, nous deux ? Est-ce que il y a des choses qui prennent trop de place ? Et prendre le temps de confier à Dieu cet aspect, ce défi peut-être d'enlever certaines choses de ses priorités. Enfin, remettre Dieu à sa place, ça prend des fois des défis. Et puis, comme a proposé André, de prendre un temps, demander à Dieu qui peut être le soutien autour de nous pour te soutenir dans ce combat que tu peux avoir à mener. Et comme ça, tu peux partager, ça peut être une fois par semaine, ça peut être de temps en temps, et souvent d'avoir quelqu'un à qui on parle un petit peu, on donne des nouvelles, ça nous motive aussi à tenir, parce qu'il faut appeler. Et puis, une fois que tu as terminé cette démarche, je te propose de demander à Dieu de t'inspirer un chant ou de mettre de la louange, de partir avec la louange, parce que Dieu, il a dit, il s'occupe de tes ennemis. Alors toi, tu peux partir tranquille.
Merci Marilyn pour cette action que tu nous proposes, qui va nous défier cette semaine. Je pense que c'est important qu'on revienne sur ce texte et qu'on se pose des bonnes questions. Nous arrivons à la fin de notre culte espoir. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce temps avec vous, Stéphane, Marilyn. Merci pour vos chroniques respectives. Merci également à toi, Andrei, pour ce partage biblique que tu nous as proposé. Petit tour de table rapide, peut-être. Avec quoi nous repartons aujourd'hui? En un mot, s'il vous plaît.
Confiance.
Ne pas lâcher.
Ensemble, on est plus fort.
Avec la même chose. Ensemble, on est plus fort. Et que soyez unis en prière avec des autres personnes.
Amen, merci. Je repars avec la confiance que Dieu sera présent dans nos batailles. Et je te souhaite, chers auditeurs, chères auditrices, une semaine paisible et bénie par Dieu.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.